Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce que naissait ? Eh bien, c'est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Aujourd'hui, le capitalisme de l'apocalypse, ou sous-titré, le rêve d'un monde sans démocratie. C'est un essai qui est publié au Seuil, dans la collection La couleur des idées. La couleur des idées, elle a fait peau neuve chez le Seuil. Tout simplement parce que le monde s'est transformé, que les lignes ont bougé, nous disent-ils, depuis la création de cette collection qui date de 1989, qui est la collection phare des essais de sciences humaines du Seuil. Tout en poursuivant son ambition fondatrice de décloisonner les savoirs, cette collection accueillera des textes directement en prise avec les questionnements actuels des sciences humaines. Les ouvrages sont de formats variés, des couvertures très illustrées, très accrocheuses, et qui ont pour objectif de rendre accessibles les pensées les plus vives de notre présent. Ça, c'était pour l'éditeur. L'auteur s'appelle Quinn Slobodian. Il est né en 1978, bien sûr. C'est un historien canadien, spécialiste de l'Allemagne contemporaine et de l'histoire mondiale. Slobodian est né en Alberta, à Edmonton, précisément, de père médecin. Sa famille a beaucoup voyagé. Elle a déménagé sur l'île de Vancouver en 1981, puis est partie au Lesotho, en Afrique australe, quelques années plus tard. Ils sont ensuite partis pour le Vanuatu, dans l'océan Pacifique Sud, en 1992, et revenus un peu plus tard au Canada. Quinn Slobodian a étudié au Lewis Clark College, dont il obtient le diplôme en 2000, et puis il a fait un doctorat à l'Université de New York en 2008. Il est membre du comité de rédaction de la revue Contemporary European History, pardon pour l'accent. Il a été professeur au Wesley College, où il occupait la chaire d'histoire des idées, et puis boursier résident à l'Université d'Harvard dans un centre international d'affaires. Il est aujourd'hui professeur d'histoire mondiale à l'Université de Boston, et il a notamment publié Les Globalistes, une histoire intellectuelle du néolibéralisme, là aussi au Seuil, et c'était en 2022. Alors le thème de ce capitalisme de l'apocalypse, eh bien, Slobodian nous dit « Jetez un coup d'œil à une planisphère et vous verrez un patchwork d'états-nations net et bien connu, ça c'est clair. » Et il nous dit « Si notre réalité était tout autre, la mondialisation a bouleversé l'ordre du monde, entraînant un foisonnement de nouvelles entités, paradis fiscaux, ports francs, cités-états, enclaves fermées, zones économiques spéciales. » Nouveaux espaces libérés, et ça c'est important, des formes ordinaires de réglementation, de taxation et d'obligations mutuelles, et tout ça perfore, comme il le dit, la carte des pays. Là, les fanatiques de l'ultra-capitalisme échappent au pouvoir des gouvernants et au contrôle démocratique. C'est ce monde composé de trous, d'aspérités, de zones grises que notre historien Slobodian décrit. Et il se lance, et alors là c'est tout à fait passionnant, sur les traces des libertariens radicaux les plus notoires. Alors on va entendre parler de Milton Friedman et plus près de nous de Peter Thiel et d'Elon Musk. Enquête magistrale qui va nous mener du Hong Kong des années 70 à l'Afrique du Sud à la fin de l'apartheid, du sud des États-Unis à la ville de Londres, de Dubaï à la Somalie en guerre, et jusque dans le métavers, révélant de matière vertigineuse les progrès terrifiants du capitalisme sans démocratie. Alors pour avoir une idée du contenu du livre, je vais vous donner la table des matières. Le tout, c'est que je la trouve. Voilà, nous y sommes. Alors, ça commence par une introduction intitulée « L'éclatement du monde ». Il y a ensuite trois parties. Première partie « île », deuxième partie « tribu », Troisième partie, nation franchisée. Et Slobodian termine comme de juste par une conclusion qu'il a intitulée « Être comme l'eau ». Alors, pour vous donner un peu une idée du ton et du rythme, je vais vous lire un petit passage qui se trouve à la page 203, au chapitre 9, qui est intitulé « Les régimes juridiques sur mesure de Dubaï ». Et alors, au début de chaque chapitre, il y a toujours une carte géographique qui permet de situer le lieu dont il parle. Je démarre la lecture. « Lorsque l'on arrive à Dubaï et que l'on voit les gratte-ciels étincelants, on pourrait se croire à Canary Wharf », écrit un cadre d'une entreprise de construction britannique, avant de réaliser à quel point tout est grand. Le même cas dit « l'échelle des choses est affolante ». Au Royaume-Uni, un projet de 60 hectares est considéré comme un projet immobilier d'envergure. La principale zone franche de Dubaï est 100 fois plus grande. Dans l'Émirat, les choses vont également plus vite. En 2 ans, ils ont construit, mis en service, un système de métro, là où au Royaume-Uni, il faudrait autant de temps pour rénover une station. Les technologies les plus avancées en matière d'ingénierie et d'architecture sont mises au service de l'érection de bâtiments visuellement époustouflants et défiant les lois de la pesanteur. Rien ne semble pouvoir arrêter l'Émirat dans sa célébration ostensible de la richesse, au mépris des inégalités qui l'accompagnent. Qu'est-ce qui a rendu cela possible ? L'autoritarisme constitue certainement un élément de réponse. Dubaï est un modèle de capitalisme sans démocratie. Du fait de l'absence d'élections populaires, de liberté d'expression et de droits pour les non-citoyens, ainsi que du recours arbitraire à la force par la police et de la pratique du travail forcé, l'Émirat est classé au début des années 2000 parmi les endroits les moins libres du monde sur le plan politique. Dès 1985, la CIA rapporte qu'à Dubaï, et on cite la CIA, l'idéologie est disqualifiée parce qu'elle n'est pas pertinente pour les affaires, fermez les guillemets. Bien entendu, disqualifier ainsi l'idéologie au profit des affaires est une idéologie en soi. La question à se poser est celle du type d'idéologie dont on parle. Ce qui est frappant avec l'Émirat, c'est la ressemblance de son fonctionnement avec celui d'une entreprise. Le pouvoir et la propriété sont entièrement consacrés dans la personne du cheikh, souvent qualifié de PDG de Dubaï Inc. Le conseil exécutif de la ville-État est composé de dirigeants d'entreprises publiques et non élus. Il en résulte un court-circuitage des délibérations publiques, voire l'élimination de toute idée d'affaires publiques. Les retards, les différends, les litiges, le NIMBY, cela n'existe tout simplement pas à Dubaï, écrit un critique d'architecture. La ville s'offre comme une publicité. Regardez ce qu'un gouvernement éclairé, entrepreneurial, efficace et non démocratique peut faire. Fermez les guillemets. Voilà le passage que je tenais à vous lire, qui donne le ton de ce livre, livre très facile à lire, très abordable, qui se lit véritablement, si je puis dire, comme un polar, c'est pas tout à fait ça, mais un peu quand même. Alors, conclusion de cet essai, eh bien, Quinn Slobodian tire des conclusions mitigées, au terme de son ouvrage. Le monde compte aujourd'hui 5400 zones, ces zones dont nous parlions en évoquant le thème du livre. Il en existe partout, hein, sous des formes diverses. Les libertariens, vous savez, ces fameux libertariens dont on parle beaucoup depuis que Trump est à la Maison-Blanche, les libertariens voyaient en elle une solution pour développer leur idéologie et mettre en pratique les principes de celle-ci. Mais contrairement à la rhétorique de ceux qui les promeuvent, ces fameuses zones, elles ne semblent pas être des endroits libérés de l'État. Au contraire, elles sont des outils dont les États se servent pour atteindre leurs propres objectifs. Slobodian le décrit bien dans son livre, notamment quand il parle de la Chine qui fait une utilisation importante de ce type de zone. Alors, loin de transformer le monde en une mosaïque d'un millier d'entités politiques différentes, engagées dans une concurrence dynamique, c'est ce que voudraient faire les libertariens, les zones ne font que renforcer la puissance d'une poignée de superpuissances qui pratiquent un capitalisme d'État. Mais les bons capitalistes savent que le véritable jeu consiste à s'emparer de l'État existant et donc de chercher, en créer un nouveau. Regardez, outre-Atlantique, il ne faut pas aller bien loin aujourd'hui pour illustrer ce propos. Les États-Unis ressemblent toujours plus à une zone gagnée au surplus par une forte opacité financière. Son statut en tant que démocratie est remis en question aujourd'hui. Un indice très respecté a d'ailleurs brièvement rétrogradé les États-Unis au rang d'anocratie, un nouveau mot qu'il va falloir faire nôtre dans notre vocabulaire. Alors l'anocratie, ben, c'est un chemin, un régime à mi-chemin plutôt entre démocratie et autocratie. Alors pourquoi faut-il lire Quinn Slobodian, son Capitalisme de l'Apocalypse, que nous apprend-il ? Bien, il nous offre d'abord une histoire inédite des dernières décennies, une approche originale, une approche inhabituelle, une approche excessivement documentée, et puis surtout une vision alarmante de notre futur proche. Cet essai a le grand mérite d'éclairer la situation mondiale actuelle, vous l'avez compris, et de nous donner les codes pour mieux la comprendre. Il nous permet aussi de comprendre combien la démocratie est menacée, comment certains véhiculent cette idée dans l'imaginaire commun des droites contemporaines que le capitalisme peut exister sans la démocratie. Il nous explique l'influence d'hommes comme Peter Thiel, hein, qu'il faut apprendre à connaître, qui est un homme de l'ombre, mais qui est très agissant. Il a notamment fortement influencé et contribué et à l'élection et à la formation du vice-président des USA, Vance, dont on a entendu parler il y a quelque temps à Munich, et ça n'a pas fait plaisir à grand monde. On apprend à connaître aussi Musk, ou avant eux, l'économiste Milton Friedman et sa descendance, parce qu'il s'est reproduit et ses enfants successifs sont dans la même veine que lui. Et puis on apprend à en connaître quelques autres qui aujourd'hui, globalement, sont au levier de l'économie et de la politique et modèlent un peu le monde. Autrement dit, toutes ces personnalités qui gravitent autour de Trump, qui se servent des États-Unis pour asseoir leur patrimoine, pour influer sur la politique mondiale, avec un but et un seul, établir une forme radicale de capitalisme dans un monde sans démocratie, une vision clairement anarcho-capitaliste. Il faut lire ce passionnant essai, c'est très clair, c'est très factuel, c'est documenté, je l'ai déjà dit, c'est d'une lecture facile, c'est très fluide, c'est très renseigné, il y a quelques cartes, ça ne vous laissera pas indifférent tant il vous apportera des clés de compréhension de notre monde actuel, apparemment, mais apparemment seulement, si illisible. C'était Essai marquant par Jacques Lavergne, avec à la réalisation et au montage de l'émission Grégoire Nachez, que je remercie. Et bien sûr, vous pourrez trouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à tous!